Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Radio Vatican. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de notre programme. Dans l'actualité de l'Église, nous parlerons de la publication vendredi du motu proprio du Saint-Père intitulé « Traditionis Custodes », redéfinissant les modalités de recours au missel préconciliaire avant de nous rendre au Kenya, en République démocratique du Congo, au Nigeria, au Bénin ou encore au Burkina Faso. L'actualité sociopolitique sur le continent nous conduira en Éthiopie, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, entre autres. À tous et à toutes, bienvenue dans cette édition.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niémier.
Il a été rendu public vendredi le motu proprio du Saint-Père intitulé « Traditionis Custodes », redéfinissant les modalités de recours au missel préconciliaire. Le pape, après avoir consulté les évêques du monde entier, a décidé de modifier les règles régissant l'utilisation du missel de 1962, libéralisé sous le nom de rite romain extraordinaire il y a 14 ans par son prédécesseur Benoît XVI. Selon ce motu proprio, la responsabilité de réguler la célébration selon le rite préconciliaire revient à l'évêque qui doit veiller à ce que les groupes qui célèbrent aujourd'hui avec l'ancien missel n'excluent pas la validité et la légitimité de la réforme liturgique des écrits du Concile Vatican II et du Magistère pontifical. Les messes suivant l'ancien rite ne seront plus dites dans les églises paroissiales. Il reviendra à l'évêque de déterminer l'église et les jours des célébrations. Les lectures seront en langue vernaculaire, selon les traductions approuvées par les conférences épiscopales. Le célébrant doit être un prêtre délégué par l'évêque. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin a, au nom du pape, adressé vendredi un télégramme au président Franz-Walter Steinmeier de la République fédérale d'Allemagne. Le cardinal Parolin a exprimé la proximité de François avec les victimes des inondations qui frappent particulièrement la République fédérale d'Allemagne. Sa sainteté se souvient dans la prière de ceux qui ont perdu la vie et exprime à leur famille sa plus profonde sympathie, écrit le cardinal Pietro Parolin au nom du Saint-Père, précisant que le pape prie en particulier pour les personnes toujours portées disparues, pour les blessés et pour ceux qui ont subi des dommages ou perdu leurs biens à cause des forces de la nature. Les membres de la conférence des évêques du Kenya ont exprimé la nécessité pour les jeunes membres de la société d'établir des relations avec leurs grands-parents et d'autres personnes âgées qu'ils décrivent comme un don indispensable à l'humanité. C'était dans un message précédant la toute première célébration de la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées instituée par le pape François au début de l'année. Les évêques du Kenya reconnaissent le rôle des grands-parents et des personnes âgées dans l'éducation à la fois des jeunes membres de l'Église. L'incapacité du gouvernement fédéral du Nigeria à lutter contre l'insécurité dans ce pays était due soit à son impuissance, soit à son désintéressement. C'est ce qu'a déclaré l'évêque de Sokoto au Nigeria, Mgr Matthew Hassan Kuka, au Congrès américain lors du sommet virtuel international sur la liberté religieuse à Washington. L'ensemble du pays, en particulier le nord, est envahi par des bandits armés et des kidnappeurs qui attaque les communautés à volonté. Le fait que le gouvernement semble soit impuissant, soit peu intéressé à s'occuper de ces gens de manière décisive, ajoute à la confusion, a déclaré l'évêque de Sokoto. En République démocratique du Congo, notre correspondant local nous rend compte des obsèques de Mgr Richard Domba, évêque de Dungu Doruma.
Depuis le lundi 12 juillet, Mgr Richard Domba repose désormais dans la cathédrale des Saints Martyrs de Luganda, à Dungu, dans la province du Haut-Uele. L'évêque a participé à Kinshasa à la dernière assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Pris d'une courte maladie, le troisième évêque de Dungu Doruma est mort le dimanche 3 juillet à 68 ans. Le dimanche 11 juillet, son corps a été accueilli à Dungu par le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Mgr Sostena Ikuli, Dieudonné Ouringi et Julien Andavo, respectivement évêques de Mahagi-Nioka, Bunia et Isiro-Niangara, ont concélébré lors de la messe des funérailles le lundi 12 juillet. Des prêtres, religieuses et religieux et des fidèles laïcs venus de toutes les paroisses du diocèse ont rendu hommage à celui qui aura été leur pasteur pendant 26 ans. Le mystère de la mort, nous devons nous y préparer chaque jour. Soyez toujours prêts, à exhorter Mgr Outembi dans l'homélie. La parole au défunt lui-même, le 12 juin à Kinshasa, Mgr Richard Doumba invité à l'espérance. Il répondait à la sœur Aimée Moussenga de l'émission religieuse catholique Le Jour du Seigneur, produite par la Commission épiscopale des communications sociales. À noter que le lundi 12 juillet, le Saint-Père François a nommé un administrateur apostolique au diocèse de Dungu-Doruma, en la personne de Mgr Émile Mouchocho Matabaro, jusqu'à la vicaire générale de l'archidiocèse de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Toujours en République démocratique du Congo, les hommages au cardinal Laurent Mosengo Pasinya, décédé le dimanche 11 juillet dernier en France, se poursuivent. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Monseigneur Edmond Djitangar, archevêque de N'Djamena et président de la conférence épiscopale tchadienne.
Le décès du cardinal Laurent Mosengo Pasinya est un coup dur pour notre église famille de Dieu en Afrique, parce que c'est un baobab, comme on dit chez nous, qui est tombé. Cardinal Mosengo, c'est d'abord le grand frère, le yaya, comme on l'appelle chez nous ici, que j'ai connu à Rome et nous a redonné vraiment du courage, nous autres jeunes étudiants, pour marcher sur ces traces. Je me suis retrouvé plusieurs fois sur ces traces-là et même j'ai grandi à son ombre au niveau de l'APK, l'Association panafricaine des exégètes africains. Je l'ai connu aussi aux deux mandats que j'ai fait comme représentant de la CERAC au CHEAM. Avec lui, nous avons parcouru plusieurs églises d'Afrique à nos différentes sessions de rencontres. Et je crois que je garde de lui le souvenir d'un grand frère attentif qui a voulu toujours nous pousser au-delà de nos limites. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé propulsé comme secrétaire de langue française au second synode des évêques. Et c'est parce que Mgr Mosengo m'a proposé et a soutenu ma candidature à ce poste. Je voudrais vraiment rendre un hommage à ce grand homme-là. Ensuite, je voudrais aussi présenter mes condoléances à toute l'Église en RDC et pour nous tous, des condoléances réciproques parce que nous sommes tous en paix en Afrique.
Mgr Edmond Djitangar, archevêque de N'Djamena et président de la conférence épiscopale du Tchad. Le cardinal Laurent Mosengo qui sera inhumé le mercredi 21 juillet prochain. Rendons-nous au Bénin, où le père Crépin Magloire Akakouvi, directeur du collège catholique Père Francis Opie, dans l'archidiocèse de Cotonou, a célébré ses 25 ans de sacerdoce. Reportage.
Le père Crépin Magloire Akakouvi, directeur du collège catholique Père Francis Opie, dans l'archidiocèse de Cotonou, au Bénin, a rendu grâce au Seigneur en la chapelle du dit collège le mardi 13 juillet 2021 pour ses 25 ans de sacerdoce. C'était au milieu d'une quarantaine de prêtres qu'on célébrant encore communion avec son archevêque Mgr Roger Rumbidi, représenté par son vicaire général chargé de la pastorale des paroisses, le père Roger Sevo, et en union de prière avec son premier directeur spirituel empêché, Mgr Antoine Gagné, archevêque émérite de Cotonou. Ils étaient nombreux, parents, amis, curieux et collègues, professeurs du jubilaire, à être témoins de l'événement. C'était devant ce parterre de participants qu'à travers la méditation de la parole de Dieu, le curé de la paroisse Notre-Dame de la Visitation de Beragba de Cotonou, le père Justin Bokovo a invité les fidèles à découvrir ce qu'est un prêtre de Jésus-Christ et son importance au sein des fidèles.
Le sacerdoce ministériel n'est l'apanage de personne. On y accède par pure grâce, sans aucun mérite de notre part. Seul Jésus est fondamentalement le vrai prêtre parce qu'il est fils de Dieu et il est Seigneur. Le prêtre est le défenseur de la vérité.
Et le jubilé plein d'émotion de s'adresser à l'assistance.
Mes sentiments ne sont que à l'action de grâce, à la gloire de Dieu le Père.
C'est par sa consécration à la Vierge Marie, suivie d'une courte adoration du Saint-Sacrement en silence, que le jubilaire à Kakovi a mis un terme à la célébration. Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Refermons cette page de l'actualité de l'Église par le Burkina Faso, où 37 membres de l'Association des travailleuses missionnaires de l'Immaculée ont vécu leur incorporation définitive dans la dite société. Les détails dans ce reportage.
Dans une liturgie bien sobre mais fervente, 37 membres de l'Association des travailleuses missionnaires de l'Immaculée, devenue depuis le 8 février 2020 par décret de l'archevêque de Marseille en France, Société de vie apostolique d'Onum Dei, ont vécu leur incorporation dans la dite société le jeudi 15 juillet 2021 à la chapelle de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila au cours d'une messe présidée par le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou. Le responsable général Agnès Brétomé, venu de Rome pour cet engagement de ses sœurs, se réjouit de la façon dont les choses se sont déroulées.
Aujourd'hui, c'est la grande équipe de Ouagadougou et ça a été vraiment un moment bien intense de communion fraternelle à travers cette formule de l'incorporation qui marque cette entrée effective dans la société de vie apostolique de Onum Dei. Et le fait que ce se soit passé comme ça, vraiment en communauté, ça a été pour moi personnellement une profonde joie. Et puis nous avons la joie bien sûr d'avoir le cardinal qui a présidé cette célébration. Et pour nous c'est vraiment une marque de confiance très grande qu'il nous fait à travers sa présence aujourd'hui.
Son éminence Philippe Cardinal Ouédraogo.
Voilà, nous leur souhaitons vraiment bon vent et je demande aux uns aux autres de les porter dans vos prières pour que leur vie soit féconde.
Parle da Ouagadougou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Amnesty International a accusé vendredi l'Éthiopie d'avoir arbitrairement arrêté des dizaines de Tigréens ces dernières semaines, alors que les rebelles qui combattent le gouvernement fédéral au Tigré ont repris le contrôle d'une grande partie de cette région en guerre depuis 8 mois. Parmi les détenus se trouvent des militants et des journalistes, dont certains ont été frappés et transportés à des centaines de kilomètres de la capitale, affirme Amnesty International. Beaucoup ont disparu, le nombre total de détenus pourrait se chiffrer en centaines, ajoute l'ONG. Les troubles et les pillages en Afrique du Sud ont été provoqués. Il y a des gens qui les ont planifiés et coordonnés, a accusé vendredi le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Durban, port de la région du KwaZulu-Natal, où les violences ont éclaté il y a une semaine. Nous allons les poursuivre. Nous en avons identifié un bon nombre. Nous ne permettrons pas l'anarchie et le chaos dans le pays, a ajouté le président sud-africain, alors que la police enquête sur 12 personnes soupçonnées d'être derrière le déchaînement de violence de ces derniers jours. La République démocratique du Congo a conclu un programme avec le Fonds monétaire international, FMI, première étape du décaissement d'un crédit d'1,5 milliard de dollars étalé sur 3 ans, assorti d'exigences de transparence dans le secteur minier, a indiqué vendredi le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le premier décaissement est immédiat, l'équivalent de 217 millions de dollars, a déclaré le représentant résident du FMI en République démocratique du Congo, Gabriel Leost. Une vingtaine de pays créanciers du Soudan ont annoncé vendredi qu'ils effaçaient largement la dose du pays dans le cadre de la réduction drastique de sa dette extérieure engagée depuis plusieurs mois pour permettre son retour sur la scène internationale.
Radio Vatican, Français Afrique. Françoise Niamier.
En Côte d'Ivoire, au moins 25 personnes ont été tuées et une trentaine blessées mercredi dans un accident de la route survenu à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan, la capitale ivoirienne, a annoncé jeudi soir le ministre ivoirien des Transports. Le Niger a inauguré jeudi à Tilia, près de la frontière avec le Mali, un centre d'entraînement de ses forces spéciales pour lutter contre les groupes djihadistes, ont indiqué vendredi les autorités nigériennes. Au moins 7 femmes sont mortes et 4 autres ont été blessées jeudi dans une bousculade au cours d'une distribution alimentaire organisée par le Comité international de la Croix-Rouge dans le nord-est du Nigeria, ont affirmé un travailleur médical et des habitants.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre programme se poursuit avec le magazine du jour consacré à l'actualité internationale de la semaine dans une présentation de Donatien Nyembo.
Dans le cadre de notre magazine, voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. Le bilan des intempéries dévastatrices en Allemagne a encore grimpé, dépassant les seuils de la centaine de victimes, avec au moins 103 morts, ont annoncé vendredi les autorités. Les secours continuaient en outre à rechercher de nombreuses personnes portées disparues. Au moins 9 personnes ont péri et des dizaines sont portées disparues dans plusieurs naufrages au large de la partie indonésienne de Bornéo, à la suite d'une violente tempête, ont annoncé vendredi des secouristes. Le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a estimé vendredi que le départ précipité des Américains d'Afghanistan était responsable de la dégradation de la situation dans le pays où les talibans mènent plusieurs offensives victorieuses. Les États-Unis ont annoncé mercredi l'évacuation prochaine des Afghans qui ont aidé l'armée américaine au moment où les talibans poursuivent leur offensive tous azimuts contre les forces afghanes. Par ailleurs, la France a demandé mardi à tous ses ressortissants de quitter l'Afghanistan, invoquant l'évolution de la situation sécuritaire et les perspectives à court terme. Pékin a rejeté vendredi les critiques du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sur le manque supposé de coopération de la Chine dans l'enquête sur l'origine de la pandémie de COVID-19. Dans un autre registre, un mort et 10 disparus, c'était les bilans provisoires de l'effondrement lundi après-midi d'un hôtel en Chine dans la grande ville touristique de Suzhou, selon les autorités. Par ailleurs, au moins 12 personnes, dont 9 Chinois, ont été tuées mercredi dans l'explosion d'un car qui a versé dans un ravin dans le nord-ouest du Pakistan, Pékin dénonçant un attentat pendant qu'Islamabad parlait d'un incident mécanique. Les autorités de Bangladesh ont procédé vendredi à l'exécution d'un islamiste qui avait été condamné pour un attentat à la bombe qui avait fait 8 morts en 2005, ont annoncé vendredi les autorités. Un navire turc a tiré vendredi des coups de semonce en direction de bateaux de garde-côte chypriote qui patrouillaient près du port de Katopyrgos sur la côte nord-est de l'île divisée, ont indiqué les autorités chypriotes sur fond des tensions grandissantes entre Nicosie et Ankara qui a démenti tout incident. Dans un autre registre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé jeudi qu'il ne pardonnerait jamais les traîtres en commémorant l'échec d'une tentative de putsch en 2016 qui lui a permis d'élargir ses pouvoirs au prix d'une répression implacable. Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a condamné fermement vendredi les meurtres d'enfants par la junte et la police birmane, indiquant que 75 enfants avaient été tués et environ 1000 autres arbitrairement détenus depuis le putsch. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a demandé vendredi la libération urgente des personnes arrêtées lors de manifestations à Cuba, appelant au dialogue tout en réclamant la levée des sanctions qui frappent le pays. Le premier ministre désigné au Liban, Saad Hariri, a annoncé jeudi renoncer à former un gouvernement près de 9 mois après sa nomination, au moment où le pays est confronté à la pire crise socio-économique de son histoire. La saison des incendies promet d'être longue et éprouvante. Alimentée par une sécheresse alarmante, les feux ravageaient déjà jeudi des centaines de milliers d'hectares dans l'ouest des États-Unis et du Canada. Le journaliste néerlandais spécialisé dans les affaires criminelles, grièvement blessé par balle le 6 juillet à Amsterdam, Pieter de Vries, âgé de 64 ans et décédé, a annoncé jeudi sa famille. Le nombre de migrants décédés en mer en tentant de rejoindre l'Europe a plus que doublé cette année, a indiqué mercredi l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, qui appelle les États à prendre des mesures urgentes. Un terrible incendie dans l'unité Covid en hôpital en Irak a coûté la vie à plus de 60 personnes lundi et provoqué la colère de la population qui a de nouveau dénoncé la gabegie et la défaillance de pouvoirs publics. L'obligation vaccinale contre le Covid-19 gagne du terrain comme en France où elle a été décidée lundi pour les personnels soignants dans le but d'endiguer le variant Delta dont la progression fulgurante fait craindre une reprise de l'épidémie dans de nombreux pays. La police haïtienne a annoncé dimanche soir avoir arrêté un ressortissant haïtien qui avait des objectifs politiques en recrutant le commando qui a assassiné le président Jovenel Moïse dans la nuit de mardi 6 à mercredi 16 juillet dernier.
Place à la rubrique sur les migrations avec Marie-Josée Mwando, Boisboilo.
Commençons notre rubrique par la déclaration de l'Organisation internationale de la migration qui appelle les États à prendre des mesures urgentes face à une forte hausse des décès de migrants rejoignant l'Europe par la mer. Le nombre de migrants décédés en mer en tentant de rejoindre l'Europe a plus que doublé cette année, a indiqué mercredi l'OIM dans un nouveau rapport. Au moins 1146 personnes sont mortes en mer en tentant de rejoindre l'Europe au cours du premier semestre 2021. En 2020, 513 avaient péri au cours de la même période et 674 en 2019. Les organisations civiles de recherche et de sauvetage ont continué à se heurter à des obstacles importants, la majorité de leurs bateaux étant bloqués dans les ports européens en raison de saisies administratives et de procédures pénales et administratives en cours contre les membres d'équipage, constate le rapport. L'Organisation internationale de la migration note également que l'augmentation des décès intervient à un moment où les interceptions d'embarcations transportant des migrants au large des côtes nord-africaines sont à hausse. Un groupe de 119 migrants subsahariens en situation irrégulière a réussi lundi à pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla après avoir franchi la triple clôture métallique la séparant du Maroc selon les autorités espagnoles. Au total, environ 200 migrants ont essayé de forcer le passage depuis le Maroc vers 4h30, soit 2h30 GMT, a indiqué la préfecture de Melilla. La garde civile espagnole et la police marocaine se sont rapidement mobilisés pour essayer de les empêcher, mais 119 migrants, tous des hommes, ont réussi à entrer à Melilla. L'Ocean Viking, le navire de secours en mer de SOS Méditerranée qui a recueilli 572 migrants en Méditerranée, a réclamé à l'Union européenne mercredi un port sûr pour les débarquer le plus rapidement possible. Nous en sommes à notre quatrième demande formulée auprès des autorités maritimes compétentes. S'est impatienté mercredi l'ONG appelant les pays européens à coordonner d'urgence le débarquement. À bord se trouvent 572 personnes sauvées en 6 opérations de sauvetage. Il y a des femmes, des enfants, un bébé de 4 mois et toutes ces personnes ont besoin de débarquer dans un lieu sûr. Le plus rapidement possible, explique l'ONG. À quelques minutes seulement du rivage de l'île grecque de Kos, Chinda, émigrant camerounais, raconte avoir été intercepté avec 30 demandeurs d'asile, puis refoulé vers la Turquie par des gardes-côtes grecs armés lors d'un nouvel épisode de refoulement illégaux dont la Grèce est accusée. Dans un communiqué du 11 juin, les gardes-côtes turcs confirment avoir récupéré les 31 migrants la veille vers 12h55. Depuis l'année dernière, médias et ONG publient des enquêtes sur les renvois forcés de migrants présents sur le territoire grec ou dans les eaux grecques vers la Turquie. Le gouvernement grec ne cesse de démentir ces incidents et accuse la Turquie de ne pas empêcher le départ des migrants depuis ses côtes occidentales proches des îles grecques. l'Europe doit se doter en urgence d'un mécanisme de répartition automatique, prévisible et solidaire des migrants secourus en Méditerranée pour leur offrir les gages des meilleurs accueils, juge Céline Schmitt, porte-parole en France du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Ce mécanisme est important parce que l'accueil doit être organisé pour qu'il y ait un enregistrement rapide des personnes une fois qu'elles débarquent en Europe. Certes, ces personnes peuvent déposer une demande d'asile en Italie, le pays de débarquement, mais il ne faudrait pas que ce soit la seule responsabilité des pays qui sont frontaliers de la Méditerranée du simple fait de leur emplacement géographique. C'est pour ça qu'il faut un partage de la solidarité et de responsabilité par différents pays européens pour protéger les personnes qui fuient les guerres, les persécutions et qui ont besoin de protection internationale.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est ici que prend fin cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Françoise Zagnamien. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. Demain, vous retrouverez le service France-Afrique de Radio Vatican à la même heure et sur la même fréquence. À très bientôt.